RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui le consultant de Dunkerque, Antoine Dierre, Abel Boyer, l'éducateur, et la fonctionnaire Zora Bitan. Mathieu Delormeau, le chroniqueur télé, qui intervient notamment chez Cyril Hanouna sur W9, Tout Beau, Tout Neuf, viendra nous raconter ses addictions. C'est un livre témoignage assez choc, cru même, dans lequel Mathieu Delormeau revient sur ses deux années de toxicomanie. Il a failli crever, hein, c'est ce qu'il le dit. J'ai failli laisser ma peau. Est-ce que c'est aussi un message qu'il veut envoyer aux jeunes et aux moins jeunes par l'intermédiaire de ce livre apparaître demain aux éditions Le Duc, qui s'appelle Addiction au pluriel. En tout cas, Mathieu Delormeau sera face au GG tout à l'heure à 11h. Notez ce rendez-vous. Pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur les scandales à répétition des agressions sexuelles dans le périscolaire parisien, avec une proposition de la haute commissaire à l'enfance qui voudrait permettre aux particuliers, et donc pas seulement aux professionnels, de demander les antécédents judiciaires des personnes qui gardent leurs enfants. Les institutions ou les associations qui accueillent des enfants peuvent déjà réclamer ce qu'on appelle un certificat d'honorabilité pour le personnel qu'ils embauchent. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est pas systématique, mais les collectivités peuvent le faire. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El-Haïry, va plus loin. Elle voudrait permettre aux particuliers de demander une attestation d'honorabilité aux personnes embauchées pour la garde de leurs propres enfants, donc nounou, babysitter. Le texte pourrait être présenté dans les prochaines semaines. Je rappelle ce que c'est l'attestation d'honorabilité. C'est un document qui permet de vérifier qu'une personne intervenant auprès des mineurs ne fait pas l'objet de condamnation l'empêchant d'exercer ses missions. L'idée, c'est de limiter au maximum de se retrouver avec des pédocriminels au contact de nos enfants. Alors, je vous interpelle, vous parents qui nous écoutez au 32-16 et qui nous regardez sur AMC Story, est-ce que vous voulez connaître le casier judiciaire de ceux qui gardent vos enfants? Est-ce que c'est une information que vous voulez obtenir? Est-ce qu'elle est nécessaire et même vitale? Le 32-16 pour intervenir sur RMC. Antoine Dierre, Zora Bitan, Abel Boyi. J'ai envie de commencer par Abel Boyi, l'éducateur. Est-ce que c'est une bonne idée ce que propose Sarah El-Haïry?
C'est quelque chose dont on va se contenter, mais c'est pas ça qui va régler les solutions.
Non, mais est-ce que déjà c'est
faut le faire, faut le faire avec faire. Avec Laura, on l'a dit à plusieurs reprises, nous on est pour que les fichiers soient publics de toute façon.
Carrément.
Ah oui, comme au Canada par exemple, ça se fait. Voilà, faut que le fichier soit public pour que ces personnes puissent être identifiées.
Parce que je comprends pas, toi qui es vraiment au fait de ces sujets, comment ça se fait que des collectivités le demandent pas systématiquement alors qu'elles peuvent le faire?
Mais en fait, c'est un petit peu dans l'esprit de la paupérisation de notre pays, c'est-à-dire que c'est un métier qui n'est pas valorisé en réalité. Il manque beaucoup de monde, il y a une crise des vocations, c'est pas super bien payé. Donc on se retrouve avec des cuisiniers qui se retrouvent à être animateurs périscolaires.
Donc en fait, on embauche le tout venant et on ne vérifie pas parce qu'on a surtout besoin de personnel.
Moi, j'ai eu le cas d'une maman dont l'enfant malheureusement a été violé. Ben, l'animateur, c'est à l'âge de 50 ans qu'il s'est découvert une destinée d'animateur. Donc évidemment que c'était ciblé. Il est allé à abusés d'enfants. La crèche en question n'a même pas, lorsque les parents ont signalé, la crèche a dit aux parents, non, attendez, on va gérer ça en interne. Et ils ont placé cet animateur avec des enfants, on va dire, de la section d'au-dessus. Il a encore violé d'autres enfants. Et aujourd'hui, ce gars, il a été, entre guillemets, exfiltré et il continue de faire des ravages et ça se passe sur Paris. Donc, moi, je suis pour, mais faut pas le présenter comme si c'était la solution miracle. Ça doit s'inscrire dans un ensemble. Donc, l'accès aux fichiers, oui. La condamnation des personnes qui sont chopées. Et aussi, il y a un sujet qui est en train d'éclore petit à petit. Gérald Darmanin s'est exprimé dessus. L'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur les enfants. Il faut que ce soit un projet global de la protection de l'enfance. Parce que si on part que sur ça, ça va encore susciter un espoir qui va accoucher d'une désillusion.
Monsieur Habitant, est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, il y a plusieurs choses dedans. D'abord, lorsque vous demandez ce casier judiciaire, lorsque vous recrutez quelqu'un, que ce soit des parents ou une collectivité.
Une attestation d'honorabilité.
Voilà, il se peut qu'au jour J où vous demandez ces éléments, oui, tout soit nickel.
Évidemment.
Et bien souvent, les actes qui sont commis sont une première fois. Donc ça va, à la limite, empêcher que des gens qui ont déjà été condamnés ou qui sont déjà fichés pour ce genre de fait d'exercer ces métiers, mais ça n'empêchera pas les événements d'arriver. Pourquoi ? Parce que les autres vont passer hors radar puisqu'ils sont arrivés avec des documents propres. Ce que dit Abel est très intéressant parce que l'autre question, c'est la question du suivi et de l'impunité de tous ces phénomènes. Parce qu'à partir du moment où les gens sont laissés dans la nature, où des enfants sont remis à leur papa alors que les tribunaux voient effectivement que les pères abusent des enfants, etc. Tant qu'il n'y a pas une réelle protection de l'enfance avec une tolérance zéro qui balaye l'ensemble des violences faites aux enfants, on fait que bricoler. Et en fait, on bricole depuis des décennies. Exactement. Et là, c'est encore un bricolage. Parce que vous prenez Monsieur X et qui fournit tous les papiers, bah Monsieur X, au 22 avril, il a commis aucun acte délictuel. Mais peut-être que le 14 janvier 2027, il va commettre son premier acte. Donc la question, elle est beaucoup plus importante que celle-là. C'est la question de la protection, que ce soit intrafamiliale, que ce soit, on voit bien le scandale de la mairie de Paris du périscolaire, où si l'affaire n'avait pas été révélée à grand bruit, grâce à la campagne des municipales, parce qu'elle date, eh ben, les gens ont été exfiltrés pour être réemployés ailleurs. Donc le scandale est beaucoup plus important que de connaître le portrait robot, ou en tout cas les antécédents judiciaires de quelqu'un qui s'occupe des enfants. Et l'on revient à la question du départ à chaque fois, la protection de l'enfance, la question de la jeunesse et de la santé mentale, et la protection des mineurs et des violences faites aux enfants, qui sont que du bricolage.
Et quand on parle de la pédocriminalité, je dis toujours, tu as le pédocriminel, celui qui est passé à l'acte, mais tu as le pédophile abstinent.
Bien sûr.
Il consomme du contenu pédopornographique et des fois il se bat de façon honnête parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il arrive que il bascule dans le périscolaire.
Et celui-là, il a un casier vierge.
Pour assouvir son fantasme.
Oui, mais bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Non. Il y aura toujours des trous dans la raquette. Mais là, ça va quand même dans le bon sens, Antoine Diers.
Là, on parle bien des parents, hein,
des
employeurs à domicile. Voilà. Je pense que c'est évidemment une bonne chose, mais en réalité, les employeurs à domicile, les parents, aujourd'hui, ils ont déjà pris du renseignement auprès d'autres familles. Ils se sont déjà renseignés.
Bien sûr, bouche à oreille,
voilà. Moi, je suis même favorable à ce que les parents soient formellement autorisés à filmer ce qui se passe chez eux quand il y a une nounou. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc,
les parents puissent mettre une caméra. En fait,
oui, on
et
y va.
Et filmer,
ils peuvent solliciter ce certificat d'honorabilité pour la personne qui travaille auprès de leurs enfants chez eux. Ils doivent également pouvoir mettre une caméra et pouvoir regarder à tout moment ce qui se passe. Parce que en réalité, vous l'avez dit tous les deux, c'est pas l'histoire de ce papier.
Mais oui.
C'est surveillé à tout moment.
Oui.
On doit mettre des caméras. La collectivité qui aurait employé quelqu'un et qui répondrait oui, mais quand on l'a pris, il avait un certificat d'honorabilité. Ce serait pas satisfaisant. Donc vraiment. Allons sur les caméras.
Et puis la vigilance des parents, quoi. Je veux dire, la vigilance des parents quand on confie ses enfants, c'est être attentif à parfois des troubles qu'on n'aurait pas vus. Il faut parler avec les enfants.
Oui, mais ça ne crée pas quand même une psychose, votre histoire, parce que si on met les caméras.
Les cas, faut demander à Abel les cas.
Il y a un officiel. Voilà. Quand tu vis dans un pays des droits de l'homme, où toutes les 3 minutes, tu as un enfant qui est victime de violences sexuelles.
Voilà. Oui, mais c'est. Il y a de quoi avoir une psychose. La plupart du temps, c'est intrafamilial.
Eh bien oui, justement.
Non, mais on fantasme beaucoup sur. Le pédophile extérieur qui vient s'en prendre à notre enfant.
Avec sa camionnette et ses bonbons, évidemment.
Et on sait très bien que malheureusement, la plupart du temps, c'est dans le cadre familial.
C'est
l'un des parents.
Mais oui, mais à la limite, c'est aux politiques de mettre ça comme sujet prioritaire.
Mais oui.
Les politiques, quand ils parlent des jeunes, c'est quoi? C'est l'immigration, le voile. Ok. Il y a des enfants qui sont abusés sexuellement, effectivement, de façon intrafamiliale. On sait que dans toutes nos classes en France, tu as 2 à 3 enfants qui sont potentiellement victimes d'inceste à la maison. Tu discutes avec les profs, ils sont au courant, mais ils sont pas formés pour ça.
Voilà.
Le prof, aujourd'hui, on lui demande d'être prof, d'être psychologue, d'être infirmier, d'être garde du corps, de se défendre face au couteau. C'est pas son rôle. Donc, quand est-ce que les politiques, moi je le répète toujours, vont mettre ça pleinement sur la table et j'attends de voir quelles vont être les propositions pour l'élection présidentielle pour la protection de l'enfance.
Valérie, t'avais avec nous au 32-16. Bonjour Valérie.
Bonjour Valérie. Bonjour.
Vous vous appelez Dénin Beaumont dans le Pas-de-Calais. Vous avez été assistante maternelle, c'est ça?
Oui, ça remonte à quelques années maintenant. Mais c'est quand mes enfants étaient petits, donc ça m'a permis de rester avec mes enfants et puis d'avoir une petite activité professionnelle en parallèle. Et quand j'ai fait ma demande d'agrément, j'ai dû fournir un extrait de casier judiciaire pour mon mari. Parce que si je fournissais pas ce casier judiciaire, j'avais pas mon agrément en fait pour accueillir les enfants.
Bah oui, parce que vous accueillez les enfants chez vous.
Voilà. Donc je comprends pas que dans le cadre d'accueil d'enfants comme ça, on demande pas un minimum de garantie pour.
Donc ça vous choque pas qu'on demande
pour la structure.
Ça vous choque pas qu'on demande ces garanties.
Bah non, moi je dis qu'à partir du moment où on n'a rien à cacher.
Oui.
C'est cool.
Et puis ça rassure les parents.
Ben voilà, complètement. Après, sur l'instant, ça m'a un peu surprise, mais je me suis dit, si je me mets à la place des parents, j'ai envie d'être sûre que mon enfant est accueilli dans une structure saine.
Oui, mais regardez Valérie, dans le cadre de l'ASE, les enfants qui sont placés dans les familles,
l'aide sociale
à l'enfance, les cas d'enfants abusés dans des familles qui ont obtenu des agréments, qui sont connus et qui sont placés par l'État, par les institutions. Comme quoi, la douane de la respectabilité et de l'honorabilité, elle marche pas.
S'il n'y avait pas les certificats, enfin, tu vois, je veux dire, on peut dire que ça passe encore au travers des mailles du filet, mais c'est toujours mieux que rien de.
C'est pour ça qu'il faut travailler sur un projet global. Par exemple, ce que dit Valérie, c'est très intéressant parce qu'elle est tombée on va dire sur une structure et dans un processus professionnel tel que ça devrait se faire tout le temps. Mais on sait qu'il y a des failles. Il y a une journaliste qui a démontré qu'en 30 minutes, elle a réussi à se faire embaucher en tant qu'animatrice dans le périscolaire. On lui a rien demandé, en fait. Je parlais de cet homme qui, à l'âge de 50 ans, s'est découvert une vocation d'animateur et qui allait violer des enfants. Donc aujourd'hui, il faut, sans ostraciser tous les animateurs, bien entendu, il faut un programme global sur la protection de l'enfance qui n'existe pas aujourd'hui.
C'est ça.
Parce que comme tu dis, Olivier, ça crée la psychose chez les parents, mais ça peut créer la psychose chez les animateurs, chez les éducateurs, où on se dit d'ailleurs, on a peur d'être accusé, moi je ne vais pas m'approcher d'un
d'ailleurs,
enfant.
D'ailleurs, dans le périscolaire parisien, il y a beaucoup d'animateurs qu'on en marre, parce qu'ils
comprendre.
On les prend tous pour des pédocriminels.
Vous savez, c'est le même système que la délinquance dans les cités, c'est-à-dire qu'à faire le déni d'une minorité, c'est toujours la punition des innocents. Et là, c'est encore le cas, c'est-à-dire que la punition des animateurs, c'est parce que, comme on veut pas traiter le problème.
L'opprobre est jeté sur
tout le monde. Et en fait, on croit protéger les minorités, mais finalement, on les livre à la minorité agissante. Et du coup, là, pour le cas des animateurs, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de programme global. De toute façon, il n'y en a jamais eu.
Merci Valérie. Merci d'avoir appelé au 32-16. Eric est avec nous également. Bonjour Eric.
Oui, bonjour les grands
miels. Vous appelez de l'un pour intervenir sur cette question. Est-ce qu'il faut permettre aux parents de connaître le casier judiciaire de ceux qui gardent leurs enfants dans tous les cadres possibles?
Oui, moi je suis un peu comme Valérie. Il y a quelques années, j'ai fait une animation avec le centre loisirs local qui s'occupe aussi du périscolaire.
Ouais.
Et on m'a demandé, alors que j'étais bénévole et que j'ai toujours été accompagné d'un animateur, on m'a demandé mon casier judiciaire, ça m'a pas choqué, et je pensais même que c'était systématique et que c'était obligatoire partout. Je suis choqué d'apprendre chez vous aujourd'hui que c'est pas le cas.
Non. Mmh. Alors en fait, par exemple, même pour les collectivités, il y a la possibilité de le faire, mais il y a certaines collectivités qui ne le font pas. Il n'y a pas de caractère obligatoire. Il pourrait être obligatoire.
Mais il manque de personnel.
Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que en même temps, il faut trouver des gens pour garder les enfants. Donc, il y a une urgence.
Si c'est des gens qui ont accusé le judiciaire avec des enfants...
Je suis d'accord.
Ils ont beau en manquer, je pense pas que ce soit la solution. Hein.
Non, bien sûr, vous avez raison. Merci Eric d'avoir appelé au 32-16. Xavier est avec nous, il aura le mot de la fin. Bonjour Xavier.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Dans l'Allier, c'est ça, du côté 10h.
Tout à fait.
Vous avez, vous, géré un centre de loisirs.
Oui.
Pareil, dans votre centre de loisirs, on vérifiait le casier judiciaire?
Alors, on le vérifiait. Moi, je le demandais à l'embauche.
Ouais.
Et c'était le casier volet 2, si je dis pas de bêtises. Là, je viens d'être embauché, donc j'avais fini mes missions dans ce centre de loisirs. Je viens d'être embauché comme éducateur dans un foyer départemental à l'enfance. Et là, on m'a demandé, moi je connaissais pas, hein, on m'a demandé le certificat d'honorabilité qui, là, interroge le casier volet 2, volet 3, et qui même, d'après ce que j'ai compris, si on a des procédures en cours, peut être interrogé. Il peut y avoir une espèce d'enquête de moralité. Donc je trouve ça très bien. Et normalement, donc là je viens de commencer ma mission dans un foyer départemental à l'enfance qui est en rapport avec l'ASE pour les enfants placés. Et normalement, d'après ce que j'ai compris, on peut me le réclamer tous les 3 mois. Donc c'est très bien ça. Et je pense que à minima.
Ah mais c'est encore mieux tous les 3 mois.
Mmh. Ah bah il faut le faire. Je vous promets, j'ai fait ça un jour férié, c'était un week-end. J'ai interrogé sur internet. Sur le lendemain, je l'avais.
Mais oui,
donc, c'est la question que j'avais demandé.
C'est
facile. Ça sort facilement, donc. Okay.
Et les parents, et ben, quand ils embauchent un nounou, ils peuvent le demander. Hein. Moi, que ça soit dans les prérogatives d'embauche, ça me choque pas du tout. Au contraire.
Je suis pas sûr qu'ils puissent le faire aujourd'hui.
Oui, mais la personne, eh ben, soit elle le fournit, elle est embauchée, soit elle le fournit pas, ils le prennent pas, et puis c'est tout. Hein. Moi, je trouve que c'est.
Ouais, mais vous savez, c'est tellement compliqué parfois, Xavier, de trouver quand vous êtes parent.
Oui, nounou aussi.
C'est babysitter, vraiment, c'est parfois vital voilà. Parce que les deux parents travaillent et que sinon c'est la galère. Donc.
Et je vous rejoins aussi en tant que ancien directeur de centre de loisirs. Il est aussi compliqué de trouver des gens pour effectuer ce métier. Voilà. Donc c'est vrai qu'on rabaisse les prérogatives. Après, il y a pas 10 000 solutions. Moi, je suis fonctionnaire territorial depuis 30 ans, faut mieux payer les gens, quoi. Et puis, il faut leur donner des emplois du temps aussi qui soient viables. C'est-à-dire que quand tu travailles 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir, moi, j'étais à 22 km de mon travail, c'est pour ça que j'ai changé, parce que, c'était pas possible. Il y a le carburant, donc il y a un travail de surveillance. Alors après, l'enquête sur le certificat d'honorabilité, je sais pas jusqu'à quel point c'est poussé. Au moins, ça interroge tous les casiers. Et ça, c'est une bonne chose. Et il faut le faire tous les 3 mois, à minima. Moi, en tant que professionnel de l'enfance, je suis prêt à le faire et à le généraliser. Et il n'y a aucun souci qu'on me le demande. Au contraire. On ne me l'aurait pas demandé, ça m'aurait paru bizarre. Ça aurait été incroyable, quoi.
Ouais. Voilà. Merci, Xavier. Merci de votre témoignage. Merci d'avoir appelé au 3216. On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules aux parents. Hein. Parents, souhaitez-vous connaître le casier judiciaire de ceux qui gardent vos enfants? La réponse, à mon avis, il n'y a pas trop de suspense. C'est oui à 90,7%. Dans un instant, l'histoire d'amour entre les Français et le livret A est peut-être en train de se terminer. Parce que c'est vrai que ça rapporte quasiment rien maintenant, le livret A. C'est vraiment. Alors pendant longtemps, c'était le produit d'épargne préféré des Français. Et là, les derniers chiffres montrent que le livret A est aujourd'hui un peu repoussé. Même s'il a encore beaucoup d'argent, le livret A a connu son pire mois de mars depuis 2009. Alors, où placer son argent? Me demandez encore Abel Boyi.
Matelas, parquet,
Abel. Il me dit où je place mon argent? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, Antoine Dier, ce consultant, Abel Boyi, l'éducateur, Zohar Bitan, la fonctionnaire. Alors là, on a une mauvaise nouvelle. Il y avait une belle histoire d'amour qui existait entre les Français et le livret A. Elle est peut-être en train de se terminer. Pourquoi je dis ça? Parce que le livret A a connu son pire mois de mars depuis 2009. Parce que le taux a été abaissé à 1,5%. Les Français ont retiré 490 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé. Mais, et c'était déjà le cas au mois de janvier et de février, donc il y a une tendance quand même. On se détourne du livret A. Alors, il y a quand même encore beaucoup d'argent sur le livret A. Il y a 58 millions de livrets A ouverts en France qui ont comme somme 446 milliards d'euros. Vous imaginez, il y a 446 milliards d'euros sur le livret A des Français.
C'est très français, ça.
Ah oui. Mais alors, si on place plus son argent dans le livret A, où placer son argent? Tiens, appelez-moi au 3216. Tiens, qui a un livret A?
Non, alors moi, alors.
T'as pas de livret A?
Non, alors d'abord, je suis admirative des gens qui savent épargner. Franchement,
t'as jamais épargné ta vie.
Moi, je suis, mais alors, c'est une catastrophe.
Tu es une cigale.
Ah non, mais c'est horrible. Une vie entière, je ne sais pas ce que c'est épargner, quoi. Je sais pas. J'adorerais. J'ai testé.
Ah,
j'ai
c'est
tenté.
Pourtant simple, mais faut se priver un peu.
Voilà. Hein, et voilà. Et moi, je sais pas faire ça. Et je me dis, mais punaise, c'est quand même génial de se dire, on se retourne, on a un petit matelas. Moi, si je me retourne, faut que j'appelle les potes, quoi.
Ah ouais.
Bah ouais, faut que je fasse une cagnotte avec les copains, parce que c'est toujours la misère, quoi. Ça veut pas dire que je gagne pas ma vie, mais je ne sais pas épargner. Voilà. Voilà. Et moi, je suis admirative de voir que je sais pas épargner, je sais pas prévoir, je, voilà. Et donc, me dire que les Français épargnent, c'est typiquement français. C'est-à-dire, c'est la peur du lendemain et bon, on a essayé de me convaincre. Ouais, mais tu te rends pas compte si t'arrives à un truc. Ouais, mais il m'est arrivé 50 000 trucs dans ma vie. Mais voilà. Bon, moi, Dieu merci, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai des, voilà. Mais le livret A
est pas de livret A chez Zorro. Non. Antoine Hier, c'est livret A ou pas?
Moi, j'ai un livret A qui est plein depuis des années.
Qui est plein d'âge.
Je dépasse le plafond avec les intérêts. C'est 22 950 euros de mémoire.
T'es déjà sur le plafond.
Voilà, et les intérêts se cumulent au-dessus. Et donc, moi, je suis tout l'inverse de Zora.
Ah ouais.
Je suis un grand épargnant. Et moi, je ne vis bien.
Pourquoi tu épargnes?
Mais tu l'as dit, c'est, tu dis l'incertitude dans l'avenir ou juste prévoir le coup dur. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des risques dans ma vie. J'ai fait plein de choses professionnellement. J'ai connu le chômage long. J'ai connu les difficultés. Et donc, je suis tranquillisé à l'idée de savoir que j'ai mon livret A et d'autres réserves de liquidités pleines. Et donc, tu abordes.
Et là, tu te dis pas, avec un taux à 1,5, il faut que je mette mon argent ailleurs.
C'est toi qui viens de me le dire. C'est m'y faire penser, là. Je me dis, avec 1,5, c'est quand même pas super bien payé. Bon, non. Rappelons quand même à tout le monde que ce taux de rémunération du livret A est calculé en fonction de l'inflation.
Bien sûr.
S'il y a quasiment plus d'inflation, bah, effectivement, le taux du livret A.
Si l'inflation revient, ça remontera.
Mais je vais peut-être placer un petit peu mieux.
Est-ce que les gens vont pas dans l'immobilier? C'est une question.
Alors, c'est effectivement, quand tu achètes, c'est un placement. Hein, tu
achètes. Oui.
Ouais, ben moi, je suis un peu comme
Zora. Alors, est-ce que tu as un livret A?
Non, j'en ai pas.
T'as pas de livret A?
Moi, je suis. J'aime vivre.
Voilà.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des économies, mais j'aime
vivre.
Je n'aime pas me prendre la tête parce que tu me dis que, de toute façon, quand tu meurs. Tu
t'emmènes
pars pas
rien.
Avec, bah exactement. Après, tu peux dire oui, mais pour tes enfants, tout ça, ok, d'accord.
Non, mais en quête coup dur.
Ouais, mais
c'est rassurant de savoir que t'as
t'as 3000 balles pour changer le frigo ou la machine à laver, mais c'est pas de l'épargne, ça.
D'une autre manière que le livret A, tu peux être un bon économe sans avoir de livret A. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas cette mentalité de peur du lendemain. Je me dis, ce qui doit arriver arrivera.
Ouais.
Et puis, oui, je suis comme ça.
C'est vrai.
Moi, c'est la peur du lendemain, mais c'est aussi le fait de me dire, si un jour j'en ai marre, que je veux arrêter de bosser, etc.
Ah, bah, c'est sûr que non, on est obligé de
d'argent de côté.
Mais c'est vrai, avec 22 000 euros, Antoine, et vu ton âge, mais va falloir que tu bosses un peu.
Tu m'as demandé que mon livret.
Il a parlé de la boîte à chaussures, dans le jardin.
Non mais Antoine, c'est le mec qui a le sac de survie à côté de la porte.
Voilà, exactement.
Mais tu veux pas faire des cours du coaching? Tu nous prends en stage, Abel et moi.
Oui, mais voyez, si la France était dirigée comme Antoine Dierz gère son budget, on serait pas dans la mouise.
Pas comme Zora et Abel.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Salut Emmanuel.
Salut les amis.
L'éditorialiste de RMC.
Emmanuel, on veut d'abord des conseils en premier. Comment épargner?
Je voudrais pas dire, les amis, mais si vous comptez sur votre livret A pour arrêter de bosser et financer votre retraite, il va falloir qu'on compte.
Bien sûr que non.
Tout d'abord.
Emmanuel, il a dit qu'il avait d'autres choses.
Alors attendez, Emmanuel, tout d'abord, est-ce que effectivement c'est la fin de cette histoire d'amour très forte entre les Français et le livret A?
Les histoires d'amour, franchement Olivier, tu sais comment c'est, ça vient, il y a des hauts et il y a des bas. Et ben l'histoire d'amour des Français avec le livret A, elle est pareille, elle a des hauts, elle a des bas, et d'ailleurs c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que ça montre que les Français, ils sont pas complètement débiles et qu'ils savent arbitrer quand même leur épargne entre ce qui est intéressant et ce qui est pas intéressant. Et la réalité, c'est qu'il faut dire que le livret A, en ce moment... C'est le pire des placements, c'est-à-dire que quand vous avez baissé la rémunération du livret A à 1,5%, que vous avez par ailleurs, parce que c'est ça qui est intéressant, est-ce que le fait que les Français désépargnent du livret A veut dire que ça y est, finalement les fourmis se sont transformées en cigales qui dépensent et pas du tout? Bah non,
non.
C'est pas ce qu'on voit dans les chiffres de conso. Par contre, ce qu'on voit, oui, c'est qu'il y a des placements autre que le livret A, son éternel, le concurrent éternel du livret A, c'est l'assurance vie.
Oui.
On voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui sort de l'assurance vie va quand même en bonne. Tout ce qui sort du livret A va vers l'assurance vie, qui, malgré, rappelons-le, le fait que l'assurance vie soit fiscalisée et pas le livret A, l'assurance vie, ça rapporte quand même toujours aujourd'hui plus que le livret A. Donc là, vraiment, on est dans ce genre d'arbitrage aujourd'hui entre une épargne très sûre qui est le livret A et une épargne aussi sûre qui est ce qu'on appelle l'assurance vie.
Il y a aussi
votre capital n'est pas menacé.
Il y a aussi le PEL, le plan épargne logement, mais il a été limité à 15 ans, donc il est moins intéressant.
Ouais, le plan d'épargne logement, c'est effectivement moins intéressant aussi. Non, après il y a des choses à faire hein, si
on veut prendre un peu de risque, parce que tout ça, alors c'est des placements de bons pères de famille, même si cette expression est aujourd'hui démodée, puisque on peut aussi être une bonne mère de famille.
Mère de famille.
Et voilà, et bien gérée. oui, je suis complètement woke maintenant. Et Emmanuel Chypre, est-ce que si on veut prendre un peu plus de risque, voilà, parce que l'IVA, c'est vrai que c'est placement sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Tu sais quoi, le meilleur placement que je peux vous conseiller, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire, si je vous dis que je le fais, c'est que je pense. Moi, ce que je crois aujourd'hui, et je peux vous dire que j'ai vu des très grands gérants de fonds mondiaux ces derniers temps. Et la seule chose qu'ils vous disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de martingale. Donc la première chose, c'est diversification maximale sur les placements. Bah, oui. Et moi, je vous conseille quoi? Je vous conseille de vous occuper un petit peu, de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de tous ces nouveaux placements. Vous savez ce qu'on appelle les ETF. C'est-à-dire, ce sont des placements que vous prenez à partir d'applis qui sont hyper faciles à utiliser. Et que vous pouvez gérer vous-même, tout seul, et vous mettez la somme que vous voulez. Vous pouvez mettre 10 euros, vous pouvez mettre 20 euros. Et là-dedans, ce sont des placements qui répliquent, finalement, les grands indices boursiers mondiaux. Donc, vous avez, par exemple, la possibilité, si vous pensez que le secteur de la santé est un secteur prometteur, bah, paf, vous achetez un ETF qui retranscrit l'évolution de la santé. ETF, oui, c'est un terme.
On va regarder ça, mec.
Regardez ça sur c'est ce qu'on appelle toutes les plateformes de trading.
Donc, on gère soi-même, c'est-à-dire qu'on passe plus par son banquier, quoi. C'est
non,
nous-mêmes.
Surtout pas. J'ai gagné 10 euros. Allez, hop, j'en dépense 30.
Et encore une fois, allez voir toutes ces applis. Je peux pas vous en recommander une en particulier, mais il y en a plusieurs. Allez voir toutes ces applis qui font des pubs à longueur de journée, et vous allez avoir un catalogue de placements. Alors ça veut pas dire qu'il faut choisir n'importe quoi. Renseignez-vous, mais là-dessus, vous pouvez par exemple prendre des grands indices. Si vous considérez par exemple que les pays émergents, bah c'est les pays qui vont rapporter le plus dans les années qui viennent, et ben allez-y, prenez un indice émergent et ça réplique encore une fois. Si vous pensez que c'est l'or, acheter de l'or, mais encore une fois, l'avantage de ces placements.
Du pétrole peut-être en ce moment.
Mais par exemple, ces placements, il y a peu de frais. Et vous mettez encore une fois ce que vous voulez, vous gérez.
Non, mais l'or a flambé, Emmanuel. Hein. L'or, c'est.
Oui,
oh là
mais
là.
Tout le monde vous dit qu'aujourd'hui, ça reste le refuge.
Toujours.
Encore une fois, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de placements refuge.
Ça sent pas bon quand l'or est à ce prix-là. Hein.
Merci, Emmanuel. En tout cas, on a bien compris que le livret A, il fallait essayer d'aller voir ailleurs. Voilà. Merci, Emmanuel, et peut-être prendre quelques risques avec ces placements. Moi, c'est intéressant. Ça,
ouais, même sans prendre des risques, en fait, c'est la discipline financière de chacun. C'est se dire chaque mois, je vais mettre 100, 200, 300 euros.
À la mesure du possible.
Voilà. Se priver un peu pour pouvoir se créer une épargne.
Bien sûr. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane, il nous appelle de Coudou dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Vous avez un livret A?
Merci de me recevoir.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez un livret A?
Oui, alors j'ai effectivement un livret A, mais un livret A duquel je me détourne petit à petit, puisque j'ai découvert il y a peu les PEA et ouais. Assurance vie. Sur lesquels j'ai investi l'année dernière, au mois de mars dernier, 17 000 euros, sur lesquels j'ai investi sur des ETF via le PEA.
Ah bah voilà,
avec des rendements.
Ce dont nous parlait Emmanuel.
Oui, tout à fait.
C'est quoi les rendements?
Alors les rendements, moi, sur l'année glissante, donc depuis le mois de mars, je suis à 13%.
Ah ouais,
Et vous payez des impôts là-dessus quand même?
Alors, c'est 5 ans. En fait, on dit il faut prendre date, c'est-à-dire que vous ouvrez un PEA, vous placez pendant 5 ans. Si vous retirez avant, vous prenez les prélèvements sociaux plus l'imposition. Mmh. Mais au bout de 5 ans, vous n'avez que les prélèvements sociaux sur la plus-value.
D'accord. Ah, c'est pas mal.
Mmh. Ouais, c'est pas mal.
Mais c'est risqué ou pas?
Ah, ça y est. Olivier, il se renseigne.
Les ETF, c'est quelque chose que moi j'ai découvert, je me suis intéressé, mais qui est très peu connu. Et c'est des indices, en fait, qui répliquent, la bourse, les indices boursiers. Mmh. Mais par exemple, si vous prenez le S&P 500, vous avez les 500 plus grosses entreprises américaines qui vont être répliquées dans l'indice. Et par contre, si demain il y en a une qui sous-performe et qui sort du top 500, elle est remplacée en fait automatiquement par l'entreprise qui performe.
Et c'est vous-même qui gérez via une application?
En fait, moi, c'est sur Bourse aux Banques. J'utilise Bourse aux Banques. J'ai ouvert un PEA et par contre, les ETF, vous n'avez rien à faire. Vous achetez l'indice et puis ensuite vous laissez vivre. Et bien évidemment, alors il y a des fluctuations au cours de l'année en fonction des événements géopolitiques et autres. Mmh. Mais en fait, si on prend l'historique des performances des ETF, en fait, c'est des indices qui sont plus que sûrs avec des taux de rendement qui sont bien, ô combien plus élevés que ceux du livret A ou toute autre épargne liquide.
Donc il y a mieux à faire. Effectivement, alors, c'est vrai que ça demande un petit investissement de temps. Et il faut aussi de se renseigner, mais ça vaut le coup. C'est ce que vous nous dites, Stéphane.
Exactement. Et aujourd'hui, moi qui ai un profil d'investissement très peu risqué, j'aime pas le risque. Aujourd'hui, en ayant découvert ça, je ne m'en passerai plus. Alors, j'ai gardé pour l'instant de l'argent sur mon livret A. J'ai 19 000 euros pour être tout à fait transparent. Mmh. Mais j'ai pris, aujourd'hui, j'ai investi déjà en un an 17 000 euros sur le PEA. Et petit à petit, je vais tout basculer, en tout cas, une grande partie sur les assurances vie et PEA.
L'avantage du livret A, c'est la disponibilité, quoi. En cas de coup dur, c'est disponible facile. On le balance sur son compte courant, ce qui est moins facile avec le PEA.
Voilà. Merci.
Vous pouvez faire, voilà. Mais bon.
Merci voilà. Stéphane, merci pour le conseil qui rejoint d'ailleurs celui d'Emmanuel Le Chypre. Alors on a posé la question, est-ce que la fin de cette histoire d'amour entre les Français, le livret A sur le compte X des grandes gueules?
Ah bah oui.
Et oui. Vous dites oui à 66,7%. Dans un instant, pas plus de 500 euros la nuit, France Télévisions resserre son budget pour le Festival de Cannes 2026. Bah tiens, peut-être que la commission à l'oncle a servi à quelque chose. À tout de suite sur
RMC. La chambre, hein, pas la nuit. Hein.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Retour des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Zora Bitant, la fonctionnaire, Abel Boyer, l'éducateur, Antoine Diers, le consultant, Mathieu Delormeau sera avec nous dans un instant avec son livre Addiction, le chroniqueur télé qu'on retrouve régulièrement sur W9, dans Tout beau tout neuf, présenté par Cyril Hanouna, viendra nous raconter comment il a vécu ses années d'addiction, il a failli y passer, hein, c'est ce qu'il raconte dans ce livre qui est très direct, très cru, très fort, et on avait envie d'en savoir plus. Il sera donc Mathieu avec nous dans un quart d'heure maintenant. Mais tiens, puisqu'on parle télé, on va regarder ce qui se passe à France Télévisions. Visiblement, c'est la fin de la gabegie.
La bamboche, c'est terminé.
L'embauche est terminée.
Ah, Louis, il est toujours exceptionnel.
Pas plus
dans
de 500 euros la nuit. Voilà les nouvelles règles fixées par le numéro 2 de France Télévisions qui a décidé de resserrer son budget pour le Festival de Cannes 2026. Ça fait suite aux révélations sur les dépenses colossales d'hébergement des équipes du service public lors du Festival de Cannes. On apprenait que les membres de la direction étaient logés dans un hôtel qui pratique des tarifs à la chambre. C'est plus de 1400 ou 1500 euros la nuit. Donc là, c'est terminé. Des règles ont été fixées par Stéphane Sidbon-Gomez, le numéro 2 de France Télé. Aucun employé de France Télé ne logera dans un hôtel dont le tarif dépasse 500 euros par nuit. La règle qu'on s'est fixée, c'est qu'il n'y aura plus personne dans aucun grand hôtel qui dépasse ses tarifs, à l'exception, il y a toujours une exception, et ça on verra, de ceux qui sont invités par le Festival de Cannes, comme la présidente de France Télévisions, Madame Ernotte, qui a toujours été invitée par le Festival de Cannes, donc cela ne coûte rien à France Télé. Pour être précis, c'est une à deux personnes.
Non, mais c'est...
Est-ce que ça veut dire que la commission à l'oncle qui avait pointé du doigt ces dépenses a servi à quelque chose? Il y a un avant et un après. Et est-ce que vous applaudissez cet effort de rigueur budgétaire du service public, Zora?
Non, mais c'est l'aveu. Ça, c'est une forme d'aveu. Mmh. Ça veut dire que pendant des années, des décennies, et donc ils ont utilisé l'argent public en open bar total, sans que personne ne dise rien. Et donc ça, c'est édifiant. Rendez l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est rendre l'argent. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, ils devraient être au pain et à l'eau pour tout ce qu'ils ont dépensé auparavant sans que personne ne dise rien. Il faut que la démocratie, elle exerce son vrai pouvoir et que le peuple s'en mêle pour qu'on dise « Ok, à partir de maintenant, c'est 500 balles la nuit et on remet des règles ». Ça veut dire que les règles n'existaient pas avant. Donc, un, la commission a eu raison. De ceux qui ont traité de populistes, etc., tous ceux qui se sont intéressés à cette commission, eh ben finalement, ils ont eu raison. Parce qu'à chaque fois que nous demandons de l'ordre, de l'intégrité, de l'honnêteté, et que l'argent public ne soit pas utilisé n'importe comment, eh ben à chaque fois on est renvoyé comme des gueux, des beaufs et j'en passe. Donc là, ça a le mérite au moins de révéler ça. La seconde chose, c'est que en plus cerise sur le gâteau, toutes ces télévisions et médias publics font la pluie et le beau temps dans ce qu'ils doivent raconter comme histoire aux Français, ce qu'ils doivent relayer comme information. Donc on paye des gens qui décident de ce qu'ils doivent vous dire et qui en plus vivent comme le prince et la princesse d'Angleterre. Ah bah c'est bon.
Mais
c'est bon,
je pose une question quand même. Est-ce que c'est normal que la présidente de France Télé soit invitée?
Non.
Ça pose une question quand même, Antoine Dierce. Par qui est-elle invitée?
C'était d'ailleurs un des arguments dans la commission du quai en disant oui, il y avait des chambres très chères, mais c'était payé par des sociétés de production.
Oui.
Et donc, Delphine Arnault, elle arrivera toujours, j'ai l'impression, à se faire payer les choses par quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr. C'est comme des élus, c'est comme des grands chefs d'entreprise. On doit peut-être se restreindre à ne pas accepter de cadeaux, une invitation d'une société de production qui serait amenée à travailler pour France Télévisions.
Non, mais là, à mon avis, c'est le Festival de Cannes qui l'invite.
Alors, de la même manière,
parce que France Télé, maintenant,
le Festival de Cannes est largement financé, à mon avis, par France Télé avec des droits, des choses, etc.
Oui.
Donc, là encore,
c'est un peu du mélange
et de l'argent qui vient quand même. Voilà, toujours à chaque fois du même endroit.
Moi, ce qui me gêne. Est-ce que ça te va le tarif à plus de 500 euros la nuit, sachant que les tarifs,
c'est encore cher.
Non mais au moment du Festival de Cannes,
tu fais combien de plans de carburant avec 500 euros?
Non mais il faut être honnête, parce qu'au moment du Festival de Cannes, les tarifs sont prohibitifs.
Est-ce que c'est à nous de le payer?
La question, ce qui me dérange, c'est toujours ces lieux de pouvoir en fait où vous avez des personnes qui sont payées par les Français. Et qui oublie que lorsqu'on est payé par les Français, on est serviteur de la France et on est serviteur des Français. C'est-à-dire que ce sont nos salariés, en réalité. Et eux, ils se comportent de façon inverse, comme si nous leur devions quelque chose. Donc, c'est pas suffisant qu'ils se gavent avec notre argent. Ils peuvent en plus en faire ce qu'ils veulent. Donc, si on voit que suite à cette commission, il y a eu ce besoin de montrer patte blanche, c'est qu'effectivement, il y avait un problème. Mais l'autre problème, c'est quoi? Oui, Pat, tu voulais dire?
Non, vas-y.
L'autre problème, c'est quoi?
C'est Erwin qui attend 32.
D'accord, mais je vais finir rapidement. C'est que les Français, on est tellement fatigués que ça ne fait même plus réagir. Ouais. C'est encore un scandale d'État qui va être
passé sous le tas. C'est aussi toujours la façon dont on gère l'argent quand on est dans le public ou dans le privé. Je peux vous dire que nous, quand on se déplace pour faire des émissions partout en France avec les grandes gueules, c'est pas 500 euros la nuit.
On confirme.
C'est tout confirmé.
À Marseille, c'était pas 500 euros.
C'est l'autre extrême.
Voilà. Erwan est avec nous. Bonjour, Erwan.
Bonjour.
Alors, est-ce que ça vous va, ces nouvelles règles qui sont fixées par le numéro 2 de France Télé?
Non, jamais de la vie. À 500 euros la nuit, dans ce cas-là, on met au moins 10 personnes dans la chambre.
C'est excellent.
Oui, mais c'est vrai que trouver une chambre à Cannes pendant le Festival de Cannes...
Il y en a moins qui y vont, c'est tout.
Ou alors on prend des Airbnb.
Il y en a moins, soit on s'éloigne de Cannes, en fait. On va à 100 km, ils prennent le train le matin, ils se débrouillent. Ouais. Ils vont à 100 km et les tarifs sont moins chers.
Pour vous, c'est encore trop cher, 500 euros la nuit.
Oui, à 50 km de Cannes, ça se fait.
Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est combien de personnes sont concernées. On ne sait pas combien.
Oui, mais à partir du moment où France Télévisions a besoin de montrer patte blanche, c'est qu'ils veulent anticiper sur le fait qu'il puisse y avoir des problèmes sur des dépenses inhérentes au Festival de Cannes. Donc, il y a bien un problème de gestion de l'argent. C'est notre argent. Au bout d'un moment, il faut que les Français puissent se réveiller. Je vous dis, on est fatigué.
Après, on demande aussi à France Télé de faire des économies. Le budget est un peu rogné.
Oui, mais j'ai bien entendu. Mais cette communication montre qu'il y a eu un problème et que cette commission, bien que... Il y a eu des choses caricaturales au travers de cette commission. On a bien vu que Monsieur Alloncle en a profité pour goûter à la lumière et que ça lui a plu. Mais c'était néanmoins nécessaire parce que ils doivent nous rendre des comptes. On en a marre de se dire qu'il faut aller voir toujours des sites internet obscurs ou connaître un petit peu des trucs techniques pour avoir accès à des chiffres. Non, ça doit être public et accessible pour tout le monde. Et les Français ont le droit de décider s'ils veulent continuer d'investir
autant
ou non.
Mais le pire, Erwan, c'est que ce qui est pris n'est plus à prendre. Ça fait combien de temps?
Ben oui, c'est fini, maintenant.
500 euros la nuit, on est, ou 3 nuits, on a déjà dépensé un SMIC.
Ben, je suis d'accord. En 3 nuits, on a dépensé un SMIC.
Pour une personne.
Bah, ça pose peut-être la question aussi, est-ce qu'il faut un déploiement aussi important pour ce type de festival, certes très important le Festival de Cannes, mais je crois quand même assez éloigné de ce que vivent les Français là aussi.
Mais là encore, ne nous focalisons pas sur ce type de dépense, la chambre à 500 euros. Je comprends que ce soit choquant pour beaucoup de monde, mais la masse des dépenses est ailleurs. Sur le nombre de salariés de France Télévisions, on a entendu parler de remboursement de taxis, etc., de choses. Donc voilà. Que ce soit un signal sur le fait qu'enfin ils se disent, ils sont peut-être surveillés grâce au travail de Charles Alloncle et de la commission, ils se disent, ah, on va peut-être faire attention. Donc c'est un bon signal, mais ça n'est pas suffisant de limiter le coût de la chambre. C'est tout le reste qui devrait être resserré, diminué.
La question, est-ce que c'est le service public qui devait récupérer aussi la couverture du Festival de Cannes? Pendant des années, c'était Canal.
C'était Canal. De l'argent privé.
Est-ce que c'est est-ce que le Festival de Cannes, c'est un festival privé? Est-ce que on doit en faire autant? Est-ce qu'on doit dépenser beaucoup d'argent? Je disais, c'est quand même un festival qui est assez éloigné de la vie des Français. C'est des films que la plupart des Français n'iront pas voir.
Oui, clairement.
La question se pose. Peut-être qu'il faut mettre tout sur la table aussi.
Tout à l'heure, Abel disait des économies par-ci, par-là, dans les commissions, etc. Mais c'est vrai que si les Français étaient rigoureux, on pourrait, sur une année, lister l'ensemble des dépenses à droite et à gauche qui pourraient faire, là pour le coup, un bas de laine assez intéressant et qui pourrait parfois servir de mesure pour faire airbag pour les Français quand il y a un problème. Parce que quand on met bout à bout, c'est-à-dire que cette histoire de France Télévisions qui dure, les médias publics, et nous on voit bien, puisqu'on a un média privé, on voit bien que la dépense n'est pas open bar, et quand vous faites une note de frais, il faut la justifier, et encore on vous dit pas de prendre un taxi à 150 balles pour faire 20 bornes, et que vous prenez l'hôtel le moins cher, etc. Ça veut dire que ça marche dans le privé. Mais comme l'argent public n'est plus géré comme de l'argent privé, comme l'argent public ça a coulé à flot depuis 40 ou 50 ans, aujourd'hui émerge quand même, vu la situation des Français du point de vue du pouvoir d'achat, sur qui on tape au passage, et ben là quand même il y a les prémices quand même d'une espèce de transparence, mais elle est loin, elle est encore loin, parce que ça c'est un effet d'annonce. Il faudrait continuer à suivre, il faudrait que ces commissions soient permanentes, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une transparence.
Il y a la Cour des comptes,
mais la Cour des comptes, qui suit ce que fait la Cour des comptes?
La Cour des comptes avait fait un rapport d'ailleurs sur France Télé.
Mais qui suit la preuve, qui suit? Regardez dans les pays nordiques, que les élus publient les factures de leur travail d'élu, c'est-à-dire le café, le restaurant, etc. Et ça se passe très bien.
Mais faut pas aller trop loin non plus.
Non, mais justement, j'ai dit de pas aller là, mais il faut suivre régulièrement. J'ai pas dit qu'on
en était. Regardez, là, il y a la haute autorité qui regarde le patrimoine des ministres.
Et ça sert à quelque chose?
Surtout, on se rend compte que moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Ben voilà.
C'est ce que je te dis, ça n'a aucun intérêt de savoir que Tartampion a telle voiture ou autre. C'est un peu la course à celui qui a le moins. D'ailleurs, je trouve qu'on a un gouvernement un peu de fauché. On apprend que M. Lecornu, son compte est dans le rouge, etc.
Mais dans l'exercice de tes mandats, dans l'exercice de tes fonctions, quand on t'attribue de l'argent public, mon Dieu, mais c'est quand même hallucinant. On t'attribue de l'argent public.
Tu dois rendre des comptes sur les dépenses.
Ça va de soi.
Oui, d'accord, mais pas la façon dont c'est fait aujourd'hui, où c'est un peu.
Mais bien sûr,
aujourd'hui,
c'est ce que je dis. La Cour des comptes ne sert à rien.
On a besoin de savoir que le ministre a un vélo électrique.
Est-ce que j'ai parlé de la haute autorité?
C'est ça, la haute autorité qui est mise en place par François Hollande.
J'ai dit que la transparence, c'est tout le temps. C'est pas une commission avec Charles Alloncle une fois tous les 10 ans. Parce que quand la commission va passer et que le bruit va passer, eh ben vous inquiétez pas, ils reprendront leur travers.
On va se retrouver dans un instant avec Mathieu Delormeau, l'animateur, le chroniqueur de Tout Beau Tout Neuf sur W9, auteur de ce livre Addiction, où il revient sur ses 2 années de toxicomanie. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.